notre Père, nous voulons te demander que nous ne soyons que le canal qui laisse passer ton message. Nous ne voulons pas entendre un homme, nous ne voulons pas entendre les idées d'un homme, mais nous voulons recevoir ce que nous dit ta parole. Et nous te demandons que cette parole puisse réellement nous corriger, nous instruire, nous affermir et nous rendre vraiment propres pour toute bonne œuvre que tu voudrais nous voir encore accomplir dans le temps qui nous reste à vivre ici-bas. Pour la gloire du Père, au nom du Fils et par cette toute puissance du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, j'espère que vous n'avez pas été trop malheureux dans votre solitude et que vous avez commencé à vous apercevoir que même quand on est seul dans une chambre, le Seigneur peut peupler notre solitude par sa merveilleuse présence. Être en contact personnel avec le Seigneur, quelle grâce! Puis, je veux croire aussi que, ayant pu rejoindre votre groupe, vous avez pu vous manifester entre frères et sœurs cet amour dont vous avez lu quelque chose dans cet épître aux Éphésiens. L'amour de Dieu. Cet amour qui est si grand, car vous connaissez tous ce merveilleux verset de l'évangile de Jean. Dieu a tant aimé le monde. Mais est-ce que vous voulez déjà appliquer à vous? Dieu m'a tant aimé. Et c'est quelque chose. Il m'a beaucoup aimé. Il m'a tant aimé. C'est quelque chose qui me dépasse. Mais comment a-t-il pu aimer un être comme moi? Et vous savoir tout à coup aimé de Dieu, eh bien, ça nous rend fou de bonheur. C'est pas vrai? Si c'est vrai qu'il m'a aimé. Et que vous pouvez être sûr de son amour, non pas parce que vous vous trouvez aimable ou parce que vous trouvez que Dieu voit en vous des choses bonnes, mais Dieu vous a aimé quand vous étiez encore pécheur, quand vous étiez encore loin de lui. Il n'a pas attendu que vous fassiez le premier pas. C'est lui qui l'a fait. Alors, vous aussi, n'attendez pas que les autres ici fassent le premier pas vers vous, mais allez vers les autres. Faites le premier pas vers peut-être quelqu'un qui ne vous apparaît pas comme très sympathique, mais il attend peut-être votre amour pour tout un coup. Son visage s'épanouit parce qu'il verra que vous l'aimez. Voyez-vous, quand on aime, on voit des changements extraordinaires. Même des ennemis peuvent devenir des amis. C'est vrai. Mais voilà, la clé, eh bien, c'est l'âme. Alors, nous en venons à ce chapitre que vous avez relu, puisque nous en avions fait une première lecture hier soir, dans le français courant. C'est donc une épître. Et qu'est-ce que veut dire le mot épître? C'est une lettre. Et cette lettre, qui l'a écrit? Bon, je pense que je n'ai pas besoin de m'allonger au sujet de l'auteur de cet épître, c'est l'apôtre Paul. Est-ce qu'il a toujours été apôtre? Non. Il était, avant cela, un homme très religieux, attention, et qui croyait que seule sa religion était la bonne. Il était monothéiste, c'est-à-dire il croyait en un seul et vrai Dieu. Il devait faire au moins 3 fois par jour cette prière, écoute Israël, le Seigneur est un seul éternel, etc., comme le font les bons juifs. Il était donc très religieux, il était absolument sincère, et puis il voulait garder sa religion, et qu'il croyait menacée justement par ses disciples de Christos, de celui qu'on appelait le Christ, et que lui n'avait pas rencontré dans sa vie. Il ne l'avait pas connu selon la chair, il n'avait pas été du nombre de ces hommes et de ces femmes qui avaient eu le privilège de rencontrer le Christ incarné dans la personne de Jésus. De sorte que lui avait pensé que ses apôtres, qui disaient partout que ce crucifié était ressuscité, ils pensaient que c'était des imposteurs. Et alors il voyait sa religion menacée, et c'est ainsi qu'il était allé à Damas, après avoir consenti à la mort de cet Étienne dont je vous ai parlé ce matin. Il consentait à sa mort. Il était fanatique à ce point-là qu'il se disait, des gens comme ça, c'est des gens dangereux pour ma religion. Vous en connaissez? Des personnes qui pensent que vous êtes peut-être dangereux pour leur religion? Mais attention, oh qu'ils puissent découvrir que vous n'êtes pas si dangereux que ça, mais que vous voulez non pas les faire changer de religion, mais leur faire connaître celui qui remplit votre vie, le Christ. Et si les gens qui vous entourent voyaient vraiment la personne de Jésus, qui n'est pas peut-être un étranger pour ces gens-là, mais la personne de Jésus vous remplir, que ça leur donnerait une toute autre impression. Comprenez-vous? Parce qu'avant, vous pouviez dire que vous faisiez partie d'une église. Au fond, vous la connaissiez pas, cette église. Qu'est-ce que vous étiez dans cette église? Vous n'étiez rien du tout. N'est-ce pas? Alors, ne dites pas que dans cette église, ce sont des païens. Vous étiez peut-être un païen dans cette église, vous. Mais l'église n'était pas nécessairement païenne. Et ceux qui y sont encore ne sont pas nécessairement des païens. Faites attention. Et ne traitez jamais les gens d'une autre église de païens. Vous n'avez pas le droit de dire cela. C'est des mots que vous devez retrancher de votre vocabulaire. Vous irritez le monde avec votre Jésus. Jésus n'a pas traité les autres de païens. Il a même dit, ces païens-là, eh bien, je n'ai jamais vu en Israël, dans la religion juive, une aussi grande foi. Vous voyez, hein, comme on a besoin de corriger notre langage. Il y a des païens qui ont plus de foi que des chrétiens. Alors, attention, attention, Seigneur, donne-moi de ne plus pécher comme j'ai péché par mes lèvres. Et à cause de mes paroles, j'ai arrêté des gens. J'ai été un obstacle pour une vraie rencontre personnelle avec le Christ chez certaines personnes. Alors, voilà, ce soldat de Tarse a eu une révélation. Sur le chemin de Damas, alors qu'il était en pleine opposition au Christ et à ses disciples, voilà que Dieu le saisit. C'est ça le miracle de la grâce. Quand Dieu veut une âme, il sait le moment et le lieu où il peut la saisir. Comme une flèche, la grâce de Dieu a atteint cet ennemi du Christ. Puis alors, évidemment, quand il a eu la révélation que c'était vrai, que le Christ était vivant, que Étienne n'était pas un blasphémateur, que quand il avait dit « Je vois Jésus debout à la droite de Dieu », alors qu'il allait mourir, hein, c'est les paroles d'un mourant. Alors, il était effondré. Et il dit « Mais qu'est-ce que je dois faire ? Seigneur, hein, c'est une vraie rencontre. Que faut-il que je fasse ? Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. » Donc, Jésus est réellement vivant. Et c'est cela qui a transformé sa vie. Mais les débuts du ministère de Paul n'ont pas été faciles. L'église primitive, d'abord ceux de Damas, ben, ils ne pensaient pas que c'était vrai, cette conversion. Et quand Dieu a parlé à Ananias pour qu'il aille parler à ce Saul de Tarse, le grand persécuteur, qui était dans une chambre en prière à Damas, eh bien, il a dit, mais Seigneur, oui, je veux bien, mais enfin, j'ai entendu parler de lui et de tout le mal qu'il fait à ton église. Et Dieu lui dit, mais cet homme-là, moi, je l'ai choisi. Rendez-vous compte. Hein? Moi, je l'ai choisi. Toi, tu ne le sais pas, mais moi, je l'ai choisi. Et c'est lui qui va porter mon nom devant les nations et je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. Cet homme qui vous a fait souffrir, lui, il va souffrir. Et c'est rien ce que vous avez souffert en comparaison de ce que lui va souffrir. Et il acceptera la souffrance par laquelle je le ferai passer. Voilà ce Saul de Tarse qui devient l'apôtre Paul, qui fait ses premières armes à Damas, puis qui après s'en va à Jérusalem, et personne ne veut le voir. Et il a fallu qu'un certain Barnabas, un homme très confiant, aille le trouver pour le présenter à l'apôtre Pierre et à l'apôtre Jacques, et que finalement il soit introduit dans l'église. Mais ça n'a pas été facile pour lui, son introduction dans l'église primitive, qu'il soit reconnu comme un vrai converti. Alors voilà donc Paul. Donc s'il est apôtre, comme vous l'avez lu, il l'est. De qui? Qu'est-ce que veut dire le mot apôtre? Envoyé. Hein? Il est apôtre de Jésus-Christ. Lui qui était un persécuteur de Jésus-Christ, le voilà qui devient un messager de Jésus-Christ. Celui qui va porter le nom de Jésus-Christ. Et il l'est. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, il a décidé de changer de religion? Pas du tout. Hein? Et il n'était pas du tout dans une assemblée chrétienne, une assemblée primitive, quand il s'est converti. Il s'est converti où? Sur un chemin. Et à quelle heure? En plein midi. Vous voyez? À l'heure où les gens dînent, lui, il est saisi par le Seigneur. Alors, il est vraiment par la volonté de Dieu. Qui est-ce qui a fait de Paul un apôtre? C'est la volonté de Dieu. Et si vous avez jeté un coup d'œil sur cette petite brochure, vous verrez que à la dernière page, à la page 12, j'ai mis les mots qui reviennent le plus souvent pour que vous puissiez vous-même méditer. Eh bien, dans cet épître aux Éphésiens, nous allons voir que 6 fois la volonté de Dieu est mise en avant. Donc, Paul est apôtre. Non pas parce qu'il a été nommé par des hommes, mais par la volonté de Dieu. Il ne peut pas faire autrement. C'est la volonté de Dieu qu'il a fait. Alors, maintenant, il écrit une lettre. Et cette lettre, comme nous allons le voir, il l'a écrite du sein de la prison. Ça s'est réalisé, la parole qu'Ananias lui avait annoncée, que le Seigneur lui avait dit, je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. C'est un homme en prison qui écrit cette lettre. Et je voudrais bien vous sensibiliser là-dessus. Qu'est-ce qu'un homme en prison peut écrire? Il parle de ses rhumatismes, de l'humidité, il parle de ses chaînes, et de toutes les souffrances et qu'il endure, de sa solitude. C'est quelque chose de penser, c'est la lettre d'un prisonnier. Il est prisonnier où? Dans la ville de Rome. Et à qui est-ce qu'il écrit? Eh bien, il les appelle saints et fidèles. C'est une lettre que Paul, à la fin de sa vie, écrit à des croyants qui se trouvent à Éphèse ou dans les environs d'Éphèse, parce que nous croyons que c'est une lettre plus universelle qu'une lettre à une église particulière. Dans certains écrits, il n'est pas parlé même d'Éphèse. Mais enfin, c'est la lettre de Paul, au fond, pour toutes les églises. C'est pas seulement pour l'église d'Éphèse, parce que l'église d'Éphèse, Paul la connaissait bien, mais pour les églises qui se sont multipliées aussi autour d'Éphèse, c'est donc une lettre vraiment universelle. C'est ce qu'on appelle une des épîtres catholiques. N'ayez pas peur du mot. L'épître aux Éphésiens est appelée une épître catholique, c'est-à-dire universelle. Voilà une des épîtres catholique. Donc, elle s'adresse à tous. Alors, il est intéressant de savoir comment Paul est allé à Éphèse. Je vous cite simplement cela pour situer la lettre. On apprend dans le chapitre 18 des Actes, donc Cette ville d'Éphèse, qui était la métropole de l'Asie mineure, la Turquie d'aujourd'hui, était une ville adonnée à l'idolâtrie, une ville où il y avait un tas de gens superstitieux qui aimaient la magie. Ça ne ressemble pas un peu à notre temps. Et quel était le culte de cette grande ville? Le culte de la déesse Diane. Hein? La déesse Diane, grande est la Diane des Éphésiens. Donc la ville d'Éphèse était vouée au culte de Diane. Et Paul a passé une première fois en venant de Corinthe. Vous avez ça dans le chapitre 18 des Actes. Il avait quitté Corinthe pour se rendre à Jérusalem et il passe par Éphèse. Il a avec lui ses amis qu'il a trouvés à Corinthe qui s'appellent Aquilas et Priscilla et Paul les laisse à Éphèse. Tandis que lui pense qu'il doit continuer sa route sur Jérusalem où il veut porter les offrandes des croyants. Et alors, Aquilas et Priscilla, donc, restent à Éphèse. Et nous voyons donc Paul prêcher une fois ou deux, donc, dans la synagogue des Juifs, mais son séjour est très court. Il quitte Éphèse, laissant les Éphésiens à Aquilas et Priscilla qui vont leur transmettre l'évangile. Mais pendant que Aquilas et Priscilla se trouvent à Éphèse, voilà qu'il arrive un juif d'Alexandrie très versé dans les Écritures qui s'appelait Apollos. Mais il ne connaissait pas pleinement tout le conseil de Dieu au sujet de Jésus-Christ. Il venait d'Alexandrie. Alexandrie, nous y étions avec ma femme il y a un mois en Égypte. Alexandrie était une ville où il y avait énormément de juifs. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 29 dans la synagogue. Mais au temps avant Jésus-Christ, il y avait une grande colonie juive. Et c'est dans cette ville d'Alexandrie que pour la première fois, la Bible en hébreu a été traduite en grec. Alors, cet Apollos, ce juif qui venait d'Alexandrie, était très versé dans les Écritures et il avait un grand talent d'orateur. Mais Aquilas et Priscilla l'ont écouté, et ils ont remarqué qu'il y avait quelques points de doctrine où ils n'étaient pas au clair. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous dites, celui-là, on l'écoute plus. Non. Ils l'invitent chez eux. Et ils lui parlent avec amour, et Aquilas et Priscilla, donc une femme qui a aussi enseigné un grand bonhomme, elle a aussi le droit, ils lui parlent plus exactement de la voix du Seigneur. Et c'est ainsi que Apollos a fait des progrès. Parce que vous savez, on peut être prédicateur, mais on a encore besoin de faire des progrès. On a besoin de mieux comprendre les pensées de Dieu. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui peut dire, moi je fais tout, je suis arrivé? Alors vous seriez avant l'apôtre Paul. Parce que Paul lui dit, je ne suis pas arrivé, je cours, je cherche à le saisir, je veux apprendre à le connaître. Oui, il y a longtemps que tu le connais, Paul. Oui, mais je veux le connaître davantage. Et voyez-vous, le but de ces retraites, c'est d'entrer dans une intimité toujours plus grande avec le Seigneur. Et peut-être que c'est une sœur qui peut aussi nous éclairer sur un point que nous n'avons peut-être pas saisi. Parce que pour Dieu, il n'y a plus ni homme, ni femme, et il se révèle à ceux qu'il a sauvés. Et l'apôtre Paul a souligné, lui qui était célibataire, il a souligné combien de femmes lui ont été utiles dans sa vie. Ne dites jamais que Paul était contre les femmes. C'est pas vrai. Vous n'avez alors jamais lu, vous êtes un ignorant des lettres de Paul, un ignorant des Écritures, si vous avez cette pensée, que Paul était un misogyne. Ce n'est pas vrai. Lisez le chapitre 16 des Romains. Et vous verrez comment il s'est parlé de ses sœurs, de ce qu'elles ont été pour lui, prêtes à donner leur vie, qui ont beaucoup travaillé pour le Seigneur. Il les met en avant. Et quand il apprend que deux sœurs sont en train de se chicaner alors qu'elles étaient servantes du Seigneur, il leur écrit une lettre aux Philippiens en disant « Je supplie Évodie et je supplie Syntyche ». Vous voyez Paul qui se met aux pieds de ces femmes pour qu'elles se réconcilient. Parce qu'il n'y a que le diable qui est content hein, quand il y a mésentente entre deux sœurs. Est-ce qu'il y aurait des sœurs qui ne s'entendent pas? Ou est-ce qu'il y aurait une sœur ici qui n'aime pas une autre sœur de son église? Bien peut-être que le Seigneur voudrait dans cette retraite supplier cette sœur d'avoir d'autres sentiments à l'égard de telle ou telle personne. Le Seigneur veut nous parler dans des faits précis. Et puis, c'est aussi vrai pour les frères. Hein. Alors, Paul est donc parti, il y a donc eu Apollos et Aquilas et Priscilla qui ont pu enseigner les Éphésiens. Mais on apprend au chapitre 19e des Actes qu'il est revenu ensuite de Jérusalem, il est revenu à Éphèse. Et on apprend que pendant 3 mois à Éphèse, il a prêché dans la synagogue, tous les sabbats. Mais les Juifs ont commencé à faire de l'opposition à l'apôtre Paul, et alors il a quitté la synagogue et il a loué une école. Vous voyez que ça arrivait déjà ce temps-là. Il a loué une école qui s'appelait l'école de Tyrannus, et pendant 2 ans, il a enseigné tous les jours dans cette école. De sorte qu'il est dit que tous les gens qui étaient en Asie, hein, toutes les foules qui ont voulu écouter le message, ont pu entendre l'évangile en allant dans cette école de Tyrannus. Puisqu'on ne pouvait plus aller dans la synagogue, entendre Paul, eh bien, on l'avait chassé de la synagogue, eh bien, il se met dans une école. Et puis, il annonce le même message. Ce message qu'il annonçait parmi les Juifs. Et il est dit que cela a duré 2 ans. Et tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Vous voyez qu'ils ne s'étaient pas découragés. Et il est dit que Dieu faisait, par l'apôtre Paul, des miracles extraordinaires. Je ne vais pas m'allonger là-dessus, mais c'est simplement pour vous dire l'influence que Paul a eue à Éphèse. Il faisait des miracles extraordinaires. Comme aussi l'apôtre Pierre. Et alors, Dieu a fait un tel travail dans les cœurs que ces gens qui étaient superstitieux sont venus un jour avec leur livre de magie, et puis qu'est-ce qu'on a fait? Un grand feu de joie. On a brûlé tous ces livres qui empoisonnaient les demeures des Éphésiens. Et il est dit la somme que représentaient ces livres. Mais j'abrège. Puis, à un moment donné, après être resté donc environ 3 ans à Éphèse, Paul est reparti, mais en passant, en ayant dû revenir dans son circuit, il a appelé à Milet, qui était assez près d'Éphèse, les anciens d'Éphèse. Il a fait venir les anciens, parce qu'il y avait eu des gens qui avaient été nommés anciens. Il les a fait venir à Milet, et là, vous avez le chapitre 20 des Actes, où vous avez les recommandations de Paul, qui dit aux anciens d'Éphèse, vous savez ce que j'ai été parmi vous. Alors lisez le chapitre 20 et vous verrez comment Paul a travaillé à Éphèse. Ne cherchant pas à évangéliser pour gagner sa vie, il n'a été à la charge de personne. Il nous dit comment il a été de maison en maison pour leur enseigner la repentance envers Dieu, la foi au Seigneur Jésus. Il dit qu'il a passé des nuits dans les larmes pour eux, et qu'il leur a annoncé pas simplement un petit salut hein, pour qu'ils n'aillent pas en enfer, mais tout le conseil de Dieu. Donc les Éphésiens étaient des gens qui avaient une bonne doctrine, qui avaient une base vraiment extraordinaire. Ils avaient eu Aquilas, ils avaient eu Priscilla, ils avaient eu Apollos, et ils avaient bénéficié de ce ministère de Paul. Et Paul peut leur dire, mais je ne vous ai rien caché des choses qui pouvaient vous être utiles, comme je le désire aussi. S'il y a quelque chose qui pourrait vous être utile, je demande à Dieu qu'il le mette dans mon cœur. Moi, je ne suis qu'un canal. Hein. je voudrais simplement laisser passer ce que l'Esprit a à vous dire individuellement. Vous êtes nombreux, moi je ne connais pas vos besoins personnels, il n'y a donc que le Saint-Esprit qui peut répondre à vos besoins et vous apporter la réponse. Eh bien, Paul pouvait dire, je ne vous ai rien caché des choses qui vous étaient profitables. Et puis, il va les quitter, alors il dit, vous savez maintenant, moi, je ne fais aucun cas de ma vie, ni la tiens pour précieuse à mes yeux. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est que j'achève ma course. Pourvu que j'achève ma course. Et le ministère que Dieu m'a confié, que je puisse l'accomplir en maugréant, avec joie, même si la vieillesse vient, la joie doit rester. Hein. Que je puisse accomplir mon ministère avec joie. Mais, si Dieu veut me reprendre, peu importe. Mais qu'il me reprenne à la bonne place. Hein. Parce qu'il y en a qui n'achèvent pas la course. Hein. Il y en a qui sont retranchés avant la fin de leur course. Mais Paul était conscient de tous les dangers qu'il pouvait avoir, alors il disait, pourvu que j'achève ma course. Mais à Rome, quand est venu le martyr, qu'est-ce qu'il a pu dire à son enfant dans la foi Timothée ? J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé ma course. C'est beau, hein ? D'arriver à la fin de sa vie en disant, je n'ai pas recommencé ma course. J'ai achevé. J'ai achevé. C'est pas à recommencer. Au fond, si je devais recommencer, je ferais la même chose. Pourquoi ? Parce qu'il a été obéissant. Mais quand vous arrivez sur votre lit de mort, puis que tout à coup, eh bien, se dresse l'idée que vous allez être présent devant le Dieu trois fois saint, vous vous mettez à trembler. Mais pour quelle raison ? Parce qu'il y a un paquet. Il faut faire la confession générale. Parce qu'on a désobéi. Puis on dira, si je pouvais recommencer, je ne ferais pas comme ceci, je ne ferais pas comme ça. Mais alors, votre vie a été une vie de désobéissance. Vous disiez que vous apparteniez à Dieu, et puis vous ne dépendiez pas de lui. Oh, vous avez dit, mais j'ai dépendu de lui dans certaines grandes choses. Oui, mais si vous ne dépendez pas de lui dans les petites choses, hein, il sera gros le paquet. Parce que vous savez, Dieu nous examine dans les petites choses. Et si nous ne faisons pas entrer le Seigneur dans les petites choses, il n'est pas souvent dans les grandes choses. Combien est-ce que vous avez de grandes choses dans la vie ? Il y en a beaucoup de grandes choses dans votre vie ? Notre vie est un amas de petites choses. Et c'est dans ces petites choses que vous devez voir le Seigneur et que vous devez ressentir l'influence du Seigneur. Alors vous arriverez à la fin de la course, dans le rayonnement, dans la joie, ce ne sera pas les trous qui se présentera devant vous, mais le Seigneur qui vous attire à lui, à le lit de mort de certains chrétiens. Quel témoignage, mais aussi le lit de mort de certains chrétiens. Quelle tristesse quand quelqu'un nous dit, oui, tout ça, lui, je le connais. Mais je n'ai pas vécu pour lui. Je n'ai pas même de joie en pensant partir. Il va rencontrer le Seigneur. On ne se moque pas de Dieu. Et notre vie, elle devait être conforme au dessein de Dieu. Au dessein que Dieu avait pour nous. Et il a un dessein pour vous. Ce n'est pas vous mettre au service du Seigneur, mais c'est dire, Seigneur, que veux-tu de moi, que veux-tu faire avec moi? Je suis prêt maintenant à accomplir ma volonté. Non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Je vais me laisser faire par le Seigneur. Voilà donc l'apôtre Paul. Et je dirais que cette église d'Éphèse avait encore bénéficié de quel ministère? Quel est l'homme que, une fois qu'il est parti, Paul a envoyé à Éphèse pour y établir des anciens pour bien les enseigner, son enfant, Timothée. Je t'ai laissé à Éphèse pour que tu soulignes certaines vérités à ces anciens, à ces croyants, qu'ils ne s'égarent pas dans toute espèce de discussion oiseuse, mais que réellement tu travailles à ce qu'ils aient un cœur pur, une foi sincère et une bonne conscience. Voilà les trois bases. Une bonne conscience, un cœur pur et une foi sincère. Pas hypocrite, mais une foi sincère. Et alors, Timothée avait été laissé par Paul à Éphèse pour donner là ces bases, que ces gens qui s'étaient convertis aient toujours une bonne conscience. Et on a une bonne conscience quand on obéit au Seigneur. Et puis, on a un cœur pur quand on se sépare du mal. On sait encore la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. Puis on a une foi sincère quand on la met en pratique. Ce n'est pas un manteau d'hypocrisie. Moi, j'ai la foi, ça veut dire. Mais c'est une foi qui produit des œuvres. Des œuvres qui sont à la gloire de Dieu. Alors, vous voyez que cette église d'Éphèse avait été donc très privilégiée quant aux enseignements qu'elle avait reçus. Pourquoi on a pensé que l'église d'Éphèse était donc l'église peut-être la plus spirituelle, et vous retrouvez cela dans l'Apocalypse. Quand le Seigneur parle aux sept églises, il nomme en premier lieu l'église d'Éphèse. Et il dit, je connais tes œuvres, ton amour, il souligne toutes les choses positives. Mais il a quand même quelque chose contre les croyants d'Éphèse. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont abandonné leur premier amour. Vous voyez qu'on est toujours en danger. Ah, vous avez commencé votre vie avec le Seigneur, vous étiez plein d'ardeur, plein d'amour. Puis voilà que maintenant, c'est plus la même chose. On s'est habitué. Et le Seigneur est sensible. Tu ne m'aimes plus de la même manière qu'avant. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, est-ce qu'on va dire, oh, mais c'est tout à fait normal. Hein? Quand on est fiancé, ben, oui, c'est le grand amour, mais au bout de quelques années, quand même, je ne vais pas encore dire à ma femme que je l'aime. Elle le sait. Comme si on le savait. Comme ça. On a besoin de se redire ces choses, je t'aime. Mais surtout en le manifestant. Hein, et en manifestant que c'est vrai. Et que l'amour, c'est le contraire de l'égoïsme. Alors, donc, Éphèse avait abandonné son premier amour. Voilà ce qu'on apprend dans l'Apocalypse. Et le Seigneur lui dit, souviens-toi d'où tu es déchu. Souviens-toi à quelle hauteur tu t'es trouvé un jour avec tous les enseignements reçus. Et repens-toi. Le remède pour nous tous, c'est la repentance. Il y a toujours remède. Il peut y avoir lacune, il peut y avoir faiblesse. Mais si vous vous ressaisissez, et qu'est-ce qui nous fait nous ressaisir? C'est la parole. Quand on se laisse enseigner par la parole, elle nous réveille. Ah non, mais ça ne va plus, c'est vrai. Mon amour a baissé. Eh bien, que faire? Je n'ai pas à me lamenter, j'ai à m'en humilier. Puis à dire, Seigneur, montre-moi encore une fois combien tu m'as aimé. Alors, c'est ainsi donc que nous voyons les circonstances de cette église d'Éphèse. Et je dirais encore que celui qui a été le dernier apôtre à Éphèse, d'après la tradition, c'est qui? Le dernier des apôtres, après tous ceux que j'ai nommés, hein, tous ces serviteurs, c'est l'apôtre Jean. La tradition nous dit que Jean est mort à Éphèse, comme Timothée aussi a subi le martyre à Éphèse. Eh bien, en dernier lieu, après Patmos, Jean serait retourné à Éphèse. Avec qui? Qui était la compagne de Jean depuis la crucifixion? Marie, la mère de notre Seigneur, qui, il semblerait, serait morte, elle aussi, à Éphèse, et non pas, comme on le dit souvent, à Jérusalem. Puisqu'elle était avec Jean, il semble bien qu'elle était à Éphèse. Donc, l'église d'Éphèse était une église qui avait été vraiment nourrie. Vous entendez l'apôtre Jean. Ils avaient eu l'apôtre Paul, qui savait parler de la foi. Mais l'apôtre Jean, il savait parler de quoi? De l'amour aussi. Eh bien, voilà un peu ces croyants d'Éphèse. Et il les appelle aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Vous avez remarqué ce mot? Ceux qui font partie de de cette église d'Éphèse ou des églises qui entourent Éphèse, ils sont appelés des saints. Est-ce que c'est parce qu'ils sont, ils étaient sans péché? Non. Mais ils étaient devenus saints. Quand on accepte le Seigneur Jésus, on lui appartient et sa sainteté devient notre sainteté. Il est notre sanctification. S'ils sont saints, c'est parce que Dieu est saint. Voilà pourquoi ils sont appelés saints. Ils ne sont pas dans des niches. Ils sont sur les bancs aux saints. Donc, à ceux qui sont vraiment mis à part. C'est ce que veut dire le mot saint. Qui ont été mis à part. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Ils sont saints. Et puis, ils sont fidèles. Vous savez ce qu'on appelle les fidèles qui vont à l'église. Mais c'est pas ça, les fidèles. Fidèles à leur engagement, qui tiennent leur engagement, qui suivent vraiment les préceptes de Jésus avec amour. Les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Alors, ils sont appelés saints et fidèles. Je me souviens, il y a 40 ans, d'avoir entendu le professeur Karl Barth nous parler une fois, c'était sur l'Épître aux Colossiens. Pendant une journée, il nous a parlé seulement sur ces deux mots, saint et fidèle. Il y avait un tas de pasteurs, il y avait un tas de gens religieux, et ils étaient déçus. Il devait nous parler de l'Épître aux Colossiens, puis il a parlé seulement saint et fidèle. Le matin, l'après-midi, jusqu'au soir. Alors des théologiens ont dit, monsieur le professeur, on attendait quand même que vous nous donniez un grand exposé de l'Épître. Il a dit, le Seigneur m'a dit de vous parler seulement de ces deux noms. Qu'est-ce qu'on peut penser de moi? Mais vous savez, je m'en souviens de cette réunion, saint et fidèle, c'est quelque chose. Qu'est-ce que c'est que les saints? Qu'est-ce que c'est qu'être vraiment fidèle dans la vie quotidienne? Mais je ne veux pas imiter Barthes ici, hein. On va passer plus loin, hein. C'est ça, vous serez mécontents. Ils sont fidèles en qui? Ils sont saints et fidèles, vous avez remarqué en qui? En Jésus-Christ. C'est seulement en Jésus-Christ qu'on peut être saint et fidèle. Mais en dehors de Jésus-Christ, je ne suis pas un saint ni un fidèle. Je sais ce que je suis. Mais en lui, je peux être saint et fidèle. Et toi aussi, vous aussi, dans votre foyer, dans votre famille, malgré toutes les déceptions que vous avez de vous-même, dites-vous que vous pouvez être saint et fidèle, dans la mesure où vous demeurez en Christ. Et alors, le vœu de l'apôtre, vous l'avez vu, verset 2, qu'est-ce que c'est? Que la grâce, qu'est-ce que c'est que la grâce? C'est tout ce qui est gratuit, c'est tout ce qui vient de Dieu. Et Dieu voudrait vous faire grâce. Il ne vous demande pas d'effort. Il vous donne sa grâce. Il voudrait que vous soyez heureux dans la grâce. Vous pensez à un prisonnier quand on lui dit qu'il est gracié, c'est son bonheur, hein? Eh bien, quel que soit votre état, Dieu vous dit, je vous donne ma grâce. Que la grâce. Et puis quoi encore? La paix. Et vous savez, c'est tous les jours qu'on a besoin de la grâce. Et c'est tous les jours qu'on a besoin de la paix. Cette paix qui est ce repos du cœur, au lieu d'être agité, au lieu d'être troublé. Vous savez qu'on est dans un monde de stress, hein, et on a besoin de la paix. Mais pas de n'importe quelle paix, pas de la paix de l'ONU, il n'y a pas de paix à l'ONU. Hein. Alors, on a besoin de cette paix qui nous est donnée de quelle source? De la part du Père. De la part de Dieu, notre Père. Est-ce qu'il est notre Père? Hein? Jésus l'a dit, hein? Quand vous priez, dites notre Père. Et je pense que ça vous reste, hein? Notre Père. C'est Dieu qui est votre Père. Alors, s'il est votre Père, vous pouvez rester dans la paix. Rien n'arrive sans lui. Hein? Tous les événements sont contrôlés par lui. Il est au-dessus de toutes les circonstances, de tous les événements. Alors, nous restons dans la paix. Jésus l'avait dit, moi je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, que votre cœur ne soit pas troublé. Alors vous voyez, les événements du monde peuvent nous troubler, mais nous restons dans la paix. À celui qui est ferme dans ses sentiments, Esaïe, tu assures la paix. La paix. Restez ferme dans vos sentiments, dans ce que vous croyez de la parole. C'est donc Dieu qui est la source de votre paix. Ce n'est pas les circonstances. Les circonstances peuvent être bouleversantes, peuvent être contre nous. Je reste dans la paix. Pourquoi ? Ce n'est pas ma paix, c'est la paix de Dieu. La paix de Dieu, il est dit qu'elle surpasse toute intelligence. Et c'est vrai. Mais comment on reste dans la paix, et pourtant tout va mal ? J'ai la paix de Dieu. Et puis c'est la paix du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez qu'ils sont liés, vous ne pouvez pas les séparer. Si vous avez la paix de Dieu, vous avez la paix de Jésus-Christ. Cette paix dont il parlait la nuit même où il fut livré, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples ? Que votre cœur ne se trouble point, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Je ne vous donne pas moi comme le monde donne. C'est quelque chose de tout différent de la paix du monde. Alors, vous voyez, c'est ça, méditer la parole, hein, c'est la repasser dans nos cœurs. Puis, alors, vous avez, moi je suis émerveillé par cet épître. Depuis le verset 3, vous avez lu cela, hein, jusqu'au verset 14, c'est un merveilleux cantique. Pour moi, cet épître aux Éphésiens, je l'ai dit déjà, c'est le cantique des cantiques du Nouveau Testament. Parce que tout à coup, voilà notre prisonnier qui se met à chanter. Vous rendez-vous compte ? Puis il est tellement rempli que les phrases se succèdent, ses présences, les mots. Vraiment, il parle en langue, là, en quelque sorte. Il est rempli. C'est un débordement. Il est au fond de sa prison, il risque la mort, tout est mauvais pour lui. Et puis, il chante. Moi, je pense à d'autres cantiques. Le Magnificat de Marie, où je le comprends très bien, et vous le comprenez aussi, que Marie ait dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur », c'est normal, qu'est-ce qu'elle vient d'avoir ? Elle a été visitée par un ange, par Gabriel, qui lui annonce qu'elle est la choisie de Dieu. Vous voyez, toujours la choisie. Elle apprend qu'elle a été choisie pour devenir la mère de notre Seigneur. Alors, quand Élisabeth lui dit, mais tu sais, il y aura un accomplissement des choses qui t'ont été dites par le Seigneur, ben alors, cette confirmation d'Élisabeth, qu'a senti son enfant Jean-Baptiste tressaillir dans son sein, hein, eh bien, cette confirmation permet à Marie d'exploser. Hein, parce que c'est ça l'adoration. Hein. C'est vraiment une explosion, c'est pas faire des phrases. Adorer, c'est pas faire des phrases d'adoration. C'est être rempli. Alors, le cœur déborde, parce que toute notre pensée est captivée par le Seigneur. Mais évidemment, si vous êtes dans le bruit, parce qu'aujourd'hui, on aime les réunions bruyantes, et on n'est pas recueilli. Mais quand on est recueilli, quand on sait ce que c'est que la valeur du silence, alors on pense à ce que Dieu est, à ce qu'il a fait. Et alors le cœur explose. Et voyez-vous, on pourrait dire qu'il y a même un petit refrain qui revient trois fois dans ce cantique de l'apôtre Paul en prison. Parce que j'ai dit que je comprends le Magnificat de Marie, je comprends aussi le Bénédictus. Qui c'est qu'a dit le Bénédictus ? C'est Zacharie. Hein. Zacharie qui vient de retrouver la parole après avoir été muet pendant les 9 mois. Et puis voilà, tout à coup, quand son fils naît, voilà la parole qui lui revient, alors il explose. Il était en silence pendant 9 mois. Alors c'est le bénédiction que vous trouvez dans le chapitre 1er de l'évangile de Luc. Mais il y a une raison d'être dans la joie. C'est le messager du Seigneur, c'est l'accomplissement de l'écriture. Il y a de la joie dans le petit bourg d'Élisabeth. Alors on comprend le bénédicte. Je comprends aussi l'apôtre Paul dans son merveilleux cantique du chapitre 8 des Romains. Il vient d'annoncer l'évangile, il a mis les bases de l'écriture, il est encore en liberté, et alors il dit, mais que dirons-nous donc à ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Et puis, il nous dit que celui-même qui n'a pas épargné son propre fils, comment ne nous donnerait-il pas aussi toute chose avec lui? Puis il passe en revue tous les événements qui pourraient nous arriver, toutes les épreuves, et il dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et il termine ce merveilleux cantique de la fin du chapitre 8 des Romains. Je suis assuré, une page j'espère, hein, je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est manifesté au Jésus-Christ en Seigneur. Vous le croyez ça? Ouais. Ben ça c'est un cantique. Mais voilà maintenant le même homme qui a chanté cela, hein, il est en prison. Est-ce qu'il a changé d'avis? Non, mais c'est ça qui est merveilleux. Il y a une continuité, il y a de la constance quand on est réellement au Seigneur. Il dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est tout l'évangile qui repasse là. Qu'est-ce que le Père a été pour Jésus? Vous le savez? Qu'est-ce que Jésus a dit à son Père? Je sais que tu m'exauces. Et le Fils a parlé. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce Dieu et Père de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il nous a bénis. Et je vais simplement, parce qu'il faut que j'avance, vous ferez votre étude vous-même, souligner cette bénédiction. Il y a plusieurs fois sept dans l'Épître aux Éphésiens. Il y a cette bénédiction qui... Le chiffre 7 dans l'Écriture, c'est le chiffre de la plénitude. Il y a une plénitude de louanges. Alors, notez bien certains mots. Il nous a bénis de quelques bénédictions? De toutes. Vous avez besoin d'une bénédiction? Ben, elle est dans ce toutes. Prenez-la. Saisissez-la, croyez que vous êtes bénis de toute bénédiction. Mais attention! Quelles sont ces bénédictions? Est-ce que ce sont des bénédictions temporelles? Est-ce que ce sont des bénédictions matérielles d'abord? Non. Ce sont des bénédictions spirituelles. Et voyez-vous, le drame aujourd'hui, c'est que quand on évangélise souvent, on fait croire aux gens que s'ils se convertissent, ils auront des bénédictions matérielles. Ça ira mieux. Jésus-Christ, votre dernière chance. Après la drogue, Jésus. Bon, tout ce que vous voulez. Et puis, on leur fait croire que la vie sera facile. Pas du tout. Les bénédictions que vous avez quand vous êtes en Christ, ce sont d'abord des bénédictions spirituelles. Bien sûr qu'il pourvoira aussi à vos besoins. Votre Père sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais ce que nous avons à rechercher quand on est au Seigneur, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Mettez Dieu d'abord et le reste vous sera donné par-dessus. Mais ne vous imaginez pas que parce que vous êtes converti, ça va être facile. C'est beaucoup plus facile pour un inconverti. Il y a des inconvertis qui ont beaucoup moins d'épreuves que des convertis. Comprenez-le bien. Et ça, c'est dans le programme. Vous devez le savoir. Jésus n'a pas dit « suis-moi et puis tout ira bien ». Prends sa croix. Et quelqu'un qui portait sa croix, on savait où il allait, au lieu de l'exécution. Alors, le Seigneur ne nous trompe pas, mais nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle, c'est-à-dire de ces bénédictions intérieures, les bénédictions spirituelles les plus élevées, les plus hautes. Et puis, elles sont où? Eh bien, ce n'est pas des bénédictions temporelles nécessairement, mais elles sont dans les lieux célestes. Elles sont où est le Christ? Donc, pour que je jouisse de ces bénédictions, il faut que je sois aussi où est le Christ. J'ai lu l'autre jour un petit journal de France, de l'église du Tabernacle, où j'étais très étonné, où j'ai lu ceci. Comme le dit notre frère Gaston Racine, il faut être un homme qui a les pieds sur la terre, la tête sur les épaules, puis le cœur dans le ciel. On s'est amusé de dire ça, il y a peut-être 30 ans que j'ai dit ça là-bas. Et vous voyez, alors ça lui est resté. Alors il écrivait un article sur la mort de mon ami Jacques Blocher, qui était pasteur du Tabernacle, puis il cite cela. Hein. Bien oui, nos bénédictions, on est des réalistes, on a les pieds sur la terre, hein, on y marche. Puis on a la tête sur les épaules. Ça ne ballotte pas. Mais on a le cœur dans le ciel. Hein. Et il faut savoir ça, parce que où est le Christ? Il est auprès de son Père. Il est auprès de son Père. Et où sommes-nous, nous? Là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Alors donc, nos bénédictions, personne ne peut nous les ravir. Elles sont dans le lieu le plus élevé qui soit, là où est le Christ. Alors, notez un peu ces quelques bénédictions que nous avons et que je peux énumérer ici. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Vous rendez-vous compte? La première bénédiction, vous apprenez que en Jésus, Dieu le Père vous a élu. Qu'est-ce que ça veut dire élu? Choisi. Hein? Il vous a choisi. Quand? Quand il a créé le monde? Avant la création. Mais vous voyez où ça vous met? Dieu a pensé à vous avant qu'il ait créé le monde. Donc bien avant votre naissance. Il pensait à vous. Ça me dépasse. Alors quand ça nous dépasse, c'est ce qu'on fait? On adore. On se prosterne. Adorer, c'est se prosterner. Prosternez-vous au lieu de dire, mais comment est-ce que je peux adorer? Mais pensez à son nom, pensez à l'amour de Dieu. Et croyez-le, c'est vrai de vrai, ça. Il ne peut pas nous mentir, Dieu. S'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de mentir. Hein. Alors, s'il vous dit qu'il vous a élu, qu'il vous a choisi avant la fondation du monde, c'est vrai. Et puis, il vous a choisi pourquoi, avant la fondation du monde? Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Vous rendez-vous compte? L'idée de Dieu à votre sujet, que vous soyez saints et irréprochables. Mais vous allez dire, il a manqué le coche, hein, parce que moi je ne suis pas un saint, je ne suis pas irréprochable. Oui, si vous regardez à vous-même. Mais si vous pensez à Dieu qui vous a choisi pour cela, est-ce que Dieu va réaliser ce qu'il a dit? Il va le réaliser, alors laissez-vous faire. Et comprenez que dans ce monde, alors que vous vous demandez, mais enfin pourquoi moi est-ce que j'existe? Pour être saint et irréprochable. C'est là ce que Dieu a en vue pour vous. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Ça ne vous donne pas un peu du tonus? Il vous a choisi pour que, alors ne regardez plus à vous-même. Jésus n'a fait que prêcher ça. Renonce à toi-même. Si tu es toujours sur toi-même, toujours recroquevillé pour voir s'il y a de la poussière dans ton nombril, tu en trouveras toujours. Mais regarde ailleurs, regarde à Dieu, détourne les yeux de toi-même, renonce à toi-même, à ta misère, et vois un peu ce que Dieu veut de toi, veut pour toi, parce que c'est ça qui compte, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que vous soyez saints et irréprochables, c'est ça sa pensée. Et alors s'il le veut, qu'est-ce qu'il fera? Il le fera, il le fera. Deuxième bénédiction. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Pensez donc. Vous êtes prédestinés. Dieu a arrêté que un jour vous soyez ses enfants d'adoption. Quand on adopte un enfant, bien sûr, il est notre enfant, on l'a adopté, mais il n'a pas notre nature. Hein. Un enfant adopté dans ce monde n'a pas la nature de ceux qui l'ont adopté. Tandis que la merveille des merveilles, c'est que dans l'adoption de Dieu, on a sa nature. Il nous rend participants à sa nature. C'est une adoption tout autre. Nous sommes adoptés dans son Fils. Mais pour que cette adoption ait pu avoir lieu, il a fallu que le Fils vienne où nous étions dans notre mort. Et il est mort. Et c'est dans cette mort qui est suivie de sa résurrection que nous sommes ressuscités et que se trouve notre adoption. Vous êtes réellement adoptés. Vous êtes les enfants d'adoption du Père, mais quand vous serez reçus dans le ciel, vous serez reçus comme qui? Comme son Fils. Vous serez reçu comme son Fils. C'est cela que vous devez comprendre. Alors, vous pensez que vous pouvez vous réjouir, même si vous deviez passer par la mort. Il me recevra comme il a reçu son propre Fils. Je suis maintenant membre de la famille de Dieu. Je suis membre non pas d'une église, d'une communauté, je suis membre du corps de Christ. Christ est la tête. Et le Christ total, c'est la tête et ses membres. Nous participons à la vie de la tête. C'est pas ma vie charnelle, c'est la vie de la tête dans les membres. C'est pas ma main gauche qui commande à ma main droite, c'est ma tête, n'est-ce pas? Alors chacun de vous, quel que soit que nous soyons, membres du corps de Christ, nous sommes donc dirigés, dominés par la tête, nous participons à la nature de Dieu. Donc voilà la deuxième bénédiction, c'est que nous sommes adoptés et prédestinés donc dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Puis, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? C'était le bon plaisir de sa volonté. Ça plaisait à Dieu, mais Dieu est Dieu. Hein? Si ça lui plaisait, mais pas regarder à vous-même. Ça plaisait à Dieu de faire ça. Vous savez pas que c'est merveilleux? Le plaisir de Dieu, c'était de vous adopter, c'était de vous avoir pour être ses enfants. Alors n'oubliez pas cela. Hein? C'était ça son plaisir. Alors ayez aussi du plaisir. Partagez le plaisir de Dieu. Il a voulu que vous soyez ses enfants. Et la troisième bénédiction, en lui, donc dans ce bien-aimé, en qui nous avons été favorisés ou rendus agréables à Dieu, parce que Dieu ne nous voit plus que dans les perfections de son Fils, en lui nous avons la rédemption par son sang. C'est-à-dire que par la mort de Christ, nous avons été rachetés. La rédemption, ça veut dire le rachat. Nous étions vendus au péché. Nous étions des esclaves. Et le Seigneur nous a rachetés. Alors quand vous dites que vous êtes sauvés par grâce, n'oubliez pas le prix de votre grâce. Qu'est-ce qu'il a payé le Seigneur pour vous racheter? Sa vie. Vous n'avez pas été rachetés de votre vaine manière de vivre par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, c'est-à-dire par la vie donnée de Jésus. Et dans cette mort, qu'est-ce que nous avons trouvé? Le pardon de nos péchés. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Vous êtes pardonné, quels que soient vos péchés passés, quelle que soit votre nature, eh bien maintenant, vous êtes pardonné. Vous avez la rédemption par son sang, quelle bénédiction! J'ai le pardon des péchés, la délivrance aussi complète. Selon quelle richesse? Mais de sa grâce, ça vient de sa grâce, ça vient pas de notre côté. C'est pas parce qu'il voyait quelque chose de bien en nous, ça vient de la richesse de ça. Est-ce que Dieu est assez riche pour faire ça? Oui, il a tout. Et cette grâce, Dieu l'a répandue abondamment sur nous. Est-ce qu'on le voit? Est-ce que le monde auquel vous parlez, ou même vos familles, vos parents, vous dites que vous êtes convertis, vous êtes désauvés, mais est-ce que le monde, est-ce que vos parents voient cette abondance de grâce? Finissez de vouloir les évangéliser. Manifestez que votre vie est changée. Que votre vie est transformée. Bouclez-la, au lieu de vouloir convertir vos parents à coups de maillotche et à coups de Bible. Mais montrez que votre vie est une transformation. Montrez non pas que vous avez changé d'église, mais que vous avez changé de vie. Et c'est cela qui sera un témoignage. Parce qu'on peut changer d'église et rester étrangement les mêmes. Et encore plus détestable qu'avant. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, il faut qu'on accepte de se laisser transpercer par la parole. Parce que nous avons fait beaucoup de tort aux âmes. Alors, la grâce de Dieu, elle a été répandue abondamment sur nous. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Puis, on doit reconnaître qu'on a beaucoup manqué de sagesse. Parce que si on s'y était pris autrement, il y aurait eu d'autres résultats, certainement. Alors, vous voyez combien la pensée du Seigneur, c'était de nous remplir de sagesse. Et la sagesse, c'était peut-être d'aller demander pardon à ses parents. Pas leur dire, vous nous avez mal élevés, vous nous avez conduits dans une mauvaise religion. C'est pas vrai. Ils ne pouvaient pas vous donner plus. Ils n'en savaient pas plus. Mais vous deviez honorer votre père et votre mère, puis vous ne l'avez pas toujours fait. Alors je m'avais demandé pardon à papa et à maman. Voilà comment on commence notre témoignage. On ne leur parle pas d'autre chose. Et ils disent, tiens, lui si orgueilleux, lui qui ne nous écoutait pas, puis maintenant il vient nous demander pardon. Alors ça, c'est le commencement d'une vraie évangélisation. Dieu veut vous donner toute espèce de sagesse et d'intelligence. On a besoin de saisir que c'est d'accord, Dieu est d'accord. Et il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Ce que la traduction a dit, le plan secret de Dieu. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Dieu a bien voulu nous révéler son secret. Et qu'est-ce que c'était son secret? Son bienveillant dessein. C'est la quatrième bénédiction. Dieu n'a pas voulu nous laisser dans l'ignorance. Il a voulu que nous puissions être joyeux en pensant à ce qu'il avait décidé dans son cœur. Il avait un bienveillant destin qu'il avait formé en lui-même, hein, pas parce qu'il nous a vus, nous, mais parce qu'il l'a formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, ce qui est appelé la plénitude des temps, de réunir toutes choses en Christ. La pensée de Dieu que vous devez saisir, c'est qu'un jour, toutes choses seront réunies en Christ. C'est ça le secret de Dieu. Qui est-ce qui dominera dans le monde? C'est le Christ. Toutes choses seront réunies en Christ. Christ est l'objet de la satisfaction parfaite de Dieu. Il l'a dit quand il est venu sur la terre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon affection. Et il dit aussi sur la montagne de la Transfiguration, celui-ci est mon Fils, il est élu, écoutez-le. Alors, vous êtes maintenant conscient que tout doit être réuni dans le Christ. Alors, ne vous dispersez pas, puisque vous avez le secret de Dieu. Tout doit converger vers le Christ et vers la gloire de Christ. Les choses qui sont dans les cieux et ceux qui y habitent, les anges, comme celles qui sont sur la terre. Un jour, nous serons ensemble. En lui, nous sommes devenus. Verset 11. Alors, c'est encore la cinquième bénédiction. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Là, Paul parle comme un juif, et il dit, nous sommes aussi devenus héritiers. Héritiers donc de Dieu. Ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer, quoi? Sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré dans le Christ. C'est pour ça que je dis que ce sont les Juifs. Hein? Paul était Juif. Et les Juifs, ils ont espéré d'avance dans le Christ. Alors, les Juifs sont devenus héritiers, donc, de Dieu, eux qui ont espéré, qui attendaient le Christ, parce que Israël avait été choisi par Dieu pour être son témoin dans le monde entier, témoin de ce qu'était Dieu, dans sa bonté, mais aussi dans sa sévérité. On ne rit pas là avec Dieu. Hein. Le peuple d'Israël a été choisi par Dieu comme le témoin de ce qu'est Dieu. Il est bon, mais il est aussi saint. Hein. Et alors, ce peuple est la manifestation de la bonté, mais aussi de la sévérité de Dieu, parce qu'il est son fils élu. Alors, Israël a espéré à l'avance dans le Christ. Mais verset 13, alors, vous avez la sixième bénédiction. En lui, vous aussi, c'est qui alors vous aussi? Les païens, n'est-ce pas, les gens d'Éphèse, qui étaient des païens. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Qu'est-ce que c'est la parole de la vérité? C'est l'évangile. L'évangile de votre salut, donc la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces Éphésiens? Ils ont cru. En lui, vous avez cru. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc, est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit? Bien sûr qu'ils l'ont. Parce que dès qu'ils ont cru, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui avait été promis, il a été reçu quand ils ont cru. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quand on a cru vraiment au Seigneur Jésus, on a le Saint-Esprit. Alors, vous vous demandez quelquefois, mais est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Oui ou non, est-ce que vous l'avez? Selon la parole ici. Quand vous avez cru, vous avez été scellé. C'est quelque chose. Hein. Il a mis sa marque sur vous.
trouvez pas que c'est merveilleux? Vous n'avez pas la marque de la bête.
Vous avez la marque du Saint-Esprit sur vous.
Il vous a marqué. Du Saint-Esprit. Qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, ou les arts de notre héritage. Quand vous payez les arts, c'est que vous aurez le tout. N'est-ce pas? Eh bien, le Saint-Esprit est pour nous comme les arts de notre héritage, parce que nous ne sommes sauvés encore qu'en espérance. Hein. Le salut total, nous l'aurons quand? Quand notre corps aussi connaîtra la toute-puissance de Dieu qui va changer notre corps de misère en la conformité de son corps de gloire. C'est là le plan de Dieu. Alors, en attendant, donc, nous avons déjà le Saint-Esprit qui est les arts de notre héritage, mais cet héritage, nous savons que nous l'aurons, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Dieu s'est acquis des hommes. Vous lui appartenez, il s'est acquis. À quel prix? La vie de Jésus. Mais la possession de tout cela, vous l'aurez quand? Quand il viendra, dans sa gloire. Mais nous sommes acquis pour cela. La possession, Dieu a déjà payé le prix a été payé. Cette possession, elle nous a été acquise. Et un jour, nous connaîtrons ça. Est-ce que ce n'est pas une belle espérance? Bien, c'est cela, la septième bénédiction. L'appel des païens au salut, c'est la sixième. Mais maintenant, le don du Saint-Esprit, c'est la garantie de notre salut, de notre délivrance complète. Nous serons sauvés complètement. Esprit, âme et corps. Maintenant, nous sommes encore dans des corps de misère, dans des corps de souffrance. Mais nous avons une espérance. Alors, vous avez maintenant la prière de l'apôtre. Et tout cela, eh bien, quand il y pense, c'est pour célébrer sa gloire. Voilà la gloire de Dieu. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, est-ce qu'on entend parler de votre foi? L'apôtre Paul, il entendait parler de cette foi des Éphésiens. Il les avait quittés, mais on entendait encore parler de leur foi. Leur foi à qui? À l'apôtre Paul? Non, au Seigneur Jésus! Et qu'est-ce qui accompagne la foi? Si la foi est vraie, c'est l'amour. Quand on a la foi, on ne dit pas simplement j'ai la foi, mais on a une manifestation de la foi. La foi, elle est agissante, dit Paul aux Galates, par l'amour. Et de votre amour pour qui? Pour quelques saints. C'est de mon petit groupe. C'est ça? Pour tous les saints. Et vous savez qu'il y en a dans toutes les églises, les saints. Aussi dans l'église romaine, croyez-le bien. Et je pourrais vous lire des lettres qui sont bouleversantes, où depuis la première ligne jusqu'à la dernière, on ne parle que de Jésus. Et si on est encore dans cette église, c'est on y reste par amour pour le Seigneur Jésus, parce qu'on voudrait le faire connaître. Ça, c'est pas à moi à juger. Mais c'est pas de changer d'église qui fait quelque chose. C'est d'être en Christ. C'est de manifester le Christ. Dans quelle mesure le Christ est-il manifesté en vous? Alors, vous aurez une vision toute différente des choses. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Dans tous les milieux, il est en relation avec les membres de son corps. Alors, ne pensez pas qu'il n'y a que vous. Pensez que Dieu les connaît. Et que ce qui compte dans une âme, quand on rencontre une âme, c'est qu'on puisse vraiment communier dans le Seigneur. De qui parlons-nous quand on se rencontre? De lui-même. Pouvoir parler de lui, de ce qui remplit notre cœur, de ce qui déborde dans notre cœur. Dans le Cantique des Cantiques, il est dit, tire-nous et nous courons après toi. Quand je vois quelqu'un courir après Jésus, quand je vois quelqu'un avoir soif de Jésus, et il y a des âmes qui ont soif de Jésus, qui veulent le connaître davantage, bien ce sont mes frères. Ce n'est pas la question de leur église qui compte pour moi. Ce sont mes frères. Parce qu'ils ont le même Père. Et je les vois en relation avec le Père. Et ce n'est pas n'importe quel Père. Hein. Alors, vous voyez, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Oui, nous disons, oui, ils ont la foi peut-être, ils ont de l'amour, mais, on ne se réjouit pas.
on ne rend pas grâce pour eux. Est-ce que vous avez appris à rendre grâce pour les autres? Pour des âmes qui sont belles, dans d'autres milieux. Pour des âmes en qui Dieu peut manifester quelque chose de son parfum, quelque chose de son amour. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous. Et puis alors, ben, s'il rend grâce, c'est formidable, mais pourquoi est-ce qu'il prie encore pour eux? Il y a besoin de prier. Mais c'est justement, quand quelqu'un marche bien, on doit encore prier. Je fais mention de vous dans mes prières. Pourquoi? Parce que je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est là qu'il l'appelle le Père de gloire, hein, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous le connaissez déjà, mais je voudrais que vous le connaissiez encore davantage. Et c'est cela qui doit être dans votre cœur pour tous les croyants, où qu'ils se trouvent, à quelque dénomination qu'ils appartiennent. Réjouissez-vous déjà de ce que vous voyez de Dieu en eux, et puis continuez de prier. Pour que le Seigneur leur donne cet esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ce Père de gloire qui est appelé aussi Père Saint par Jésus, Père Juste, Père des Miséricordes, le Père des Lumières dont parle Jacques, le Père des Esprits dont il est question dans les Hébreux, ce Père éternel qu'avait annoncé Ésaïe, c'est le Père de gloire. Hein? Pour que ces âmes sachent l'espérance qui se rattache à son appel. Vous voyez qu'il est question de la foi, puis ensuite de l'espérance et puis de l'amour. Hein. Il y a les trois vertus chrétiennes qui sont mentionnées ici. La foi, l'amour et l'espérance. Il faut que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Dieu vous a appelé, mais à quoi? Vous connaissez votre espérance? Qu'espérez-vous? C'est une des petites brochures que j'avais écrites quand j'étais jeune. Qu'espérez-vous? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? C'est que vous soyez comme Christ. Et qu'elle est envers nous qui croyons. Vous voyez, il y a deux choses qui sont demandées. Qu'il y ait un esprit de révélation, que les yeux de notre cœur, dit une autre version, soient vraiment éclairés. Le cœur, c'est le centre de la vie. Hein. Que nous puissions comprendre qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Est-ce que vous y croyez? Vous dites, mais moi je suis faiblesse. Vous regardez à votre faiblesse, vous n'arriverez à rien. Mais vous devez comprendre l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ce n'est pas de vous que ça va venir. C'est de qui? C'est de sa force. Et cette force, vous voulez savoir comment et quelle est la mesure de cette force? Verset 20, il l'a déployée en Christ. Comment? En le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Pour la deuxième fois, on trouve les lieux célestes. Bénis de toute bénédiction, hein, dans les lieux célestes. Lieu céleste de bénédiction, mais maintenant ici, lieu céleste de puissance. Autrement dit, et nous allons terminer, eh bien, Dieu vous déclare que la même puissance qu'il lui a fallu pour ressusciter son fils, il la met à votre disposition. C'est la même puissance qui vous recrée en vie. Vous pouvez bénéficier, quand vous voulez savoir quelle est la puissance que Dieu peut manifester en moi, eh bien, c'est la puissance qu'il a manifestée en ressuscitant son fils d'entre les morts. C'est cette puissance-là qui peut être manifestée en vous. Et il l'a fait asseoir, alors que la pierre était scellée, qu'il était dans le tombeau, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de quoi? De toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, ça c'est toute la hiérarchie angélique, et aussi la hiérarchie des êtres mauvais, toute puissance, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit maléfique. Le Seigneur est au-dessus de toutes ces puissances, parce que nous verrons qu'il y a des puissances méchantes. Hein. Eh bien, ne dites pas, moi, qu'est-ce que vous voulez, je suis victime de ces puissances. Le Seigneur est au-dessus de toutes ces puissances, donc il peut vous libérer, vous devez y croire.
Vous devez saisir cette délivrance en Christ. Et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans ce siècle présent, donc maintenant, dans le temps où nous vivons, mais encore dans le siècle à venir, celui du royaume. Il a tout mis sous ses pieds. Sous les pieds de qui? Du Christ. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Quel est le chef de votre Église? C'est Jésus. Comment vous pouvez vous dire cela? Au lieu de dire c'est mon pasteur. Le chef de l'Église, votre chef et maître, c'est le roi des rois. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le chef. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas être soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Mais l'Église, on apprend ce qu'elle est. Qu'est-ce que c'est? C'est son corps. L'Église, c'est son corps. Donc tout à coup, on a la vision. Mais qu'est-ce que c'est que l'Église? C'est pas une institution, c'est pas une maison, c'est pas une cathédrale, c'est pas une salle évangélique. L'Église, c'est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Comment ne pas arriver à l'adoration si tous les chrétiens étaient remplis de cette plénitude? Il est la plénitude. Vous la cherchez où? Il l'est. Vous l'avez. Alors laissez-vous remplir. Mais il veut tout remplir. Tout en qu'est-ce qu'il remplit en vous? Eh bien, je demande au Seigneur qu'il remplisse tout en moi et qu'il remplisse tout en vous. Ça, c'est l'épître qui nous conduit à l'adoration. Nous prions. Dieu notre Père, nous n'avons fait qu'effleurer ces vérités merveilleuses, mais nous nous souvenons que ton apôtre était dans la joie même quand il était dans la prison. Et quand nous voyons cet exemple, quand nous voyons de quoi il était occupé dans ses pensées, nous voulons te demander que nous aussi, quelles que soient nos circonstances, nous ne soyons plus préoccupés par notre petite vie, mais que nous soyons préoccupés de ce que toi tu penses, de ce que toi tu veux. Et que vraiment, nous puissions réaliser ton dessein. Tu nous as prédestinés à la gloire éternelle. Tu es un Père de gloire. Que notre gloire se trouve vraiment dans l'amour de Jésus.